Il était une fois un verrier, sixième épisode. Salvatore Diciaca nous parle des verres imprimés, des femmes dans la verrerie et de l'importance de l'expérience et de la transmission.
Donc en 1972, comme j'avais dit tout à l'heure, on s'occupait de tout ce qui était verre imprimé. Donc en 2007, on a été racheté par le groupe AGC. Ce qui s'est passé simplement, c'est que sur les 2-3 années, ils ont vu le verre solaire, les panneaux solaires qui ont commencé à exploser. Et ils ont eu la bonne idée de transformer le verre imprimé en verre solaire. Donc en 2010, on a complètement basculé de verre imprimé à verre solaire. Il faut savoir simplement que la qualité du verre entre le verre imprimé et le verre solaire est différente. Donc en n'ayant qu'un seul four, on ne pouvait pas se permettre de continuer les deux productions. Donc ils ont basculé dans le verre solaire parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup qui arrivaient à faire du verre solaire, mais ben, le problème c'était le transport et ainsi de suite. Donc on arrivait à prendre un marché énorme. D'ailleurs on a basculé de 90 à plus de 200 personnes. Et là ce qui s'est passé simplement, c'est qu'on a laissé tomber complètement les clients qu'on avait au niveau du verre imprimé. Ça c'était une direction prise par l'entreprise. Mais le problème, c'est ce qui nous a un petit peu mis dedans par la suite. C'est parce que ce verre solaire, on a eu quelques belles années, qui nous a rapporté de l'argent, parce que c'est ce que eux voulaient, c'est que la valeur bénéfice avait été quintuplée. Mais ils ont laissé tomber les clients. Et par la suite, les Chinois, les Japonais, les deux, hein, sont arrivés en Europe et ont inondé le marché avec des prix hors concurrence. Donc le déclin de l'usine de Roux a commencé là, quoi, en fait.
Est-ce qu'il y avait des femmes qui travaillaient à l'usine ?
Au début. Tout au début, oui. Et il y avait même une femme qui était à l'atelier mécanique qui s'occupait du nettoyage des rouleaux. Donc il faut savoir simplement que les rouleaux, une fois qu'ils ont pris une certaine production, ben, ils ont noirci, ils ne sont plus tout à fait efficaces. Et il y avait un système de nettoyage qui était comme un genre de tourneur. Mais bon, ce n'était pas une personne qualifiée, c'était une personne qui mettait les tours. Ils mettaient les tours sur une machine et qui passaient un sablage pour les nettoyer, pour les remettre en production. Dans les années 70, je sais qu'il y avait quand même facilement 25% de femmes. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre individuelle, il y avait beaucoup de femmes.
Vous venez d'une famille de verriers ou bien vos parents ou votre famille a travaillé dans d'autres domaines ?
Non, moi je suis fils immigré. Donc mon père est venu travailler dans la mine, puis il est passé dans la sidérurgie. Et j'ai rien à voir avec la verrerie, donc c'est tombé par hasard. Donc moi j'ai travaillé dans une société au départ où on faisait des produits chimiques. La société a fermé et j'ai vu qu'il y avait une annonce au niveau de chez Glaver Belge. Je me suis dit, j'ai postulé et j'ai directement été pris. Donc j'ai pas eu d'intervalle, ne fût-ce que d'un jour de chômage entre les deux.
Pourquoi ne pas travailler dans le verre à l'heure actuelle? Il y a encore moyen, on engage encore peut-être?
On engage encore. Maintenant, il faut savoir malheureusement se lever le matin. Il faut savoir faire des sacrifices pour les gens qui travaillent à pause. C'est pas toujours facile. Hein. Il y a quelques anecdotes où on a eu des étudiants où il y avait des possibilités, mais ils n'ont pas voulu prendre de poste pour une raison simplement de qualité de vie. Maintenant, je vais vous dire un truc, dans une usine comme celle d'AGC, on ne fait pas tout et n'importe quoi, donc on était quand même... Faut savoir que dans mon parcours, sur la fin, donc les 5 dernières années, j'ai fini délégué principal. Donc à l'atelier, à un certain moment, il y avait des élections. C'est mes collègues qui m'ont poussé, quelque part, à aller dans ce sens-là. Et on ne faisait pas faire n'importe quoi. Donc dans des grosses entreprises comme ça, quelque part, voilà, vous êtes bien encadré. Maintenant, là où ça devient compliqué pour les jeunes, c'est dans les toutes petites entreprises où quelque part il n'y a pas de syndicat et qu'on veut faire tout et n'importe quoi aux gens.
De cette expérience passée à vous, qu'est-ce que vous en retirez ?
Tous les jours, vous apprenez quelque chose. Hein. Donc il faut savoir simplement que l'expérience, quand on dit l'expérience, j'ai travaillé avant ça avec un ingénieur qui me disait tous les jours, tu ne te rends pas compte, mais tu apprends quelque chose. Donc 15 ans dans ce milieu-là, et je peux vous dire certaines fois, en partant de là, à la limite, on m'a proposé des places même ailleurs par rapport à cette expérience. Il faut savoir, quand vous avez une machine qui tombe régulièrement en panne, vous avez deux possibilités, vous appelez une société extérieure qui la fait réparer, ou vous mettez dans le bain pour la réparer vous-même. Et une fois que vous l'avez réparée vous-même, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle va tomber en panne, vous savez la réparer. Ça, c'est la personne.
Donc en fait, on apporte par l'engagement personnel une valeur ajoutée.
Et on apprend.
Et on apprend.
Et on apprend aussi par les anciens. qui ont une certaine expérience et vous les voyez faire, vous dites, oh, c'est pas con ce qu'il fait. Et vous prenez un petit peu, vous apprenez le métier comme ça aussi.
Pour qu'on puisse résumer ça, la transmission d'un côté et l'engagement personnel
de l'autre. Et l'engagement personnel de l'autre. Il faut les deux, il n'y a rien à faire. C'est comme une équipe de foot, hein. Si vous prenez que des jeunes, ça marche pas. Si vous faites un mix des deux, ben, ça marche bien.
Eh bien, grand merci.
Ouais, ben, il n'y a pas de souci. Hein.